enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alléluia, gloire à Dieu.
Merci, moi.
Seigneur est bon, amen.
Amen, mes amen.
Vous savez, marcher avec le Seigneur, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est vraiment ce qu'il y a de plus précieux. C'est vrai que ça nous demande souvent des efforts.
Hein.
Ça nous demande une certaine consécration. Ça nous demande de sortir de nous-mêmes. Mais la foi vous mettra toujours dans le naturel, dans un certain danger. Marcher par la foi, ça a des risques. Et pas les moindres risques. Marcher par la foi vous amènera à avoir des résistances du naturel d'une façon très particulière. Mais vous verrez aussi la puissance de Dieu. Les gens veulent voir la puissance de Dieu, mais ils ne veulent pas prendre certains risques. Mais la foi, c'est risqué. La foi, c'est risqué. Quand tu prends des engagements par la foi, quand tu marches par la foi, selon la parole de Dieu, obligatoirement, ça va impliquer des risques dans ta vie. Ça, c'est obligatoire. Tu ne peux pas marcher dans la foi sans prendre certains risques. C'est-à-dire sans que le naturel te défie ta foi. Et c'est normal. Puisque de toute façon, le naturel doit se soumettre au surnaturel. Et ça, c'est un combat au début. Surtout quand on n'a pas l'habitude de marcher par la foi. Nous allons continuer sur les chrétiens rétrogrades. Et je vous rappelle que la dernière fois, je vous avais fait un enseignement sur certains problèmes qu'on voit à propos de personnes qui s'approchent de Dieu. Certains nous croyons qu'effectivement, ils sont nés de nouveau. Et en fait, ils ne sont pas nés de nouveau. Mais nous avons vu aussi que certaines personnes sont vraiment nées de nouveau. Et ces personnes rétrogradent. Donc nous avons commencé à essayer de comprendre le processus du rétrogradage, si on peut s'exprimer ainsi.
Parce que je vous ai montré que dans ce monde aujourd'hui,
l'évangile est de plus en plus prêché. L'église de Dieu utilise de plus en plus de moyens médiatiques.
Hein.
Et ça, c'est absolument excellent. Mais il y a aussi certaines méthodes qu'on utilise pour faire de l'évangélisation. Et ces méthodes, parfois, eh bien, amènent en fait à une sorte de moisson qui n'est pas tout à fait la réalité par rapport à ce qu'on voit avec nos yeux. Donc il est clair que le fait que des gens rétrogradent, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Nous avons vu l'exemple de Démas dans le Nouveau Testament, et qui était quelqu'un qui était un relatif proche de Paul, puisque il s'était un proche de Luc et Luc était un proche de Paul aussi. Et on voit plus tard, quelques 10-15 ans plus tard, puisque Paul en avait parlé dans Colossiens 4:14, on voit que dans 2 Timothée, juste vers la fin de la vie de Paul, on s'aperçoit que Démas s'est écarté. Il est parti pour l'amour du siècle présent, la parole de Dieu. Alors nous avons vu la dernière fois la condition d'un rétrograde, et je vous ai montré qu'un vrai rétrograde, c'est d'abord quelqu'un qui est né de nouveau. Et là, je vous ai montré qu'il y a un certain nombre de personnes qui disent qu'ils ont reçu Jésus, mais en fait, il n'y a pas de fruits. Ils sont à 100% stériles. Ils sont là, ils s'approchent à des appels. Ils sont tout contents au départ. Il semblerait qu'il soit né de nouveau. On attend des fruits, mais on n'en voit pas. Et nous avons vu ça dans la parabole du semeur. C'est le deuxième type de fruit. Deuxième type, pardon, de terrain, excusez-moi. Et en fait, on s'aperçoit que ce genre de personne, ça a l'air de pousser l'évangile, mais c'est une illusion, c'est une conversion émotionnelle. C'est une fausse conversion. Donc des gens qui viennent,
Abanwaza,
qui adoptent toutes sortes de langages des gens sauvés, des gens qui sont nés de nouveau. Ils adoptent même des attitudes dans la louange. Ils sont très contents. Il y a des jolis chants, il y a une belle musique. C'était peut-être des déçus de l'église traditionnelle. Mais finalement, on s'aperçoit d'une chose. Il
n'y
a pas eu de nouvelle naissance.
Il
y a eu quelque chose qui s'est passé dans leur âme, dans leur personnalité.
Ils
trouvent que l'évangile est quelque chose de très intéressant. Ils sont très contents d'être parmi des chrétiens. Parce qu'en général, les chrétiens ne devraient pas leur voler, ne devraient pas leur mentir, ne devraient pas leur faire du mal de manière générale. Ils sont normalement beaucoup plus gentils que les païens, etc. Et en fait, c'est normal qu'être autour de chrétiens, en général, on s'attire beaucoup moins d'ennuis que d'être autour de païens. Je dis bien en général. Il faut le dire. Il y a quand même des gens à histoire, il faut le dire, dans le corps de Christ. Bon, donc on s'aperçoit que dans la condition du rétrograde, d'abord, il faut que la personne soit née de nouveau. Bon, une fois que la personne est née de nouveau, on voit que d'un seul coup, elle s'écarte du Seigneur. D'un seul coup, ça nous paraît d'un seul coup. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il y a tout un processus. L'ennemi a mis tout autour de cette personne un piège. Cette personne a reçu le Seigneur, mais finalement, on s'aperçoit qu'elle va s'écarter du Seigneur. Mais ce n'est pas pour ça qu'elle renie sa foi. Parce que je vous ai montré une chose. Si vous parlez avec des gens qui sont vraiment nés de nouveau,
et
qui ont rétrogradé, c'est-à-dire vous ne les voyez plus à l'église, ils sont retournés dans le péché, dans une certaine mesure, quand vous parlez avec eux, ces gens-là vous diront, mais moi je crois encore en Jésus. Tu sais, de temps en temps je prie, oh, de temps en temps je vais à l'église, ou je vais à des concerts chrétiens, ou j'écoute les radios chrétiennes,
vous voyez,
ils vous diront toujours ça. Ils vous diront, t'en fais pas, je reviendrai, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que le rétrograde n'est pas quelqu'un qui est perdu, c'est-à-dire qui va en enfer. Par contre, il est en danger dans le sens où il est un instrument diabolique pour donner du discrédit au message de l'Évangile. Parce que normalement, quand quelqu'un se dit chrétien, qu'il a reçu le Seigneur, on attend de lui que ce soit l'église de Dieu, que ce soit le monde, il y a un certain témoignage que cette personne doit porter, qu'elle a commencé à porter. Et elle a parlé de son expérience. Certains se sont moqués, d'autres se sont réjouis. Mais d'un autre côté, ce qu'on veut voir, c'est la personne s'épanouir. Et je vous rappelle une chose, le monde nous observe. Quand tu as commencé à marcher avec le Seigneur et que tu as commencé à dire à tes amis, à ta famille, Non, ça je ne fais plus ça parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Maintenant je marche avec Jésus, ma vie a été changée. Il t'observe. Moi je me rappelle quand je me suis converti, mon propre frère m'a dit, oh, de toute façon on verra bien dans 10 ans. Oui,
mais
ben, on a vu dans 10 ans, on a fait
même
les comptes un peu plus tard que 10 ans,
plus tard.
Et je peux vous dire que je bénis le Seigneur d'avoir rencontré. Je suis très heureux d'avoir rencontré Christ. Et ma foi est bien plus forte aujourd'hui. Il y a 25 ans, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, les inconvertis nous observent. Ils nous cherchent des histoires pendant un temps. Et après, ils lâchent. Parce que tu t'as fermé dans ta foi. Donc rappelez-vous, la personne donc, qui rétrograde, c'est quelqu'un qui est en danger. Elle n'est plus nourrie. Elle ne reçoit plus rien au niveau de la présence de Dieu parce qu'elle est dans le péché, parce que sa conscience lui reproche quelque chose, parce que son cœur s'est endurci, ce qui ne veut pas dire que le Saint-Esprit est parti, parce que sinon si elle revenait à Christ, elle devrait renaître de nouveau. Et nulle part dans la Bible il y a une doctrine qui permet de dire qu'on peut renaître, c'est-à-dire naître une troisième ou une quatrième ou une cinquième fois. Donc il est clair dans la parole de Dieu La condition du rétrograde est une condition dangereuse pour cette personne, dangereuse pour l'évangile. Et ça amènera toujours de mauvais fruits. À partir du moment où on marche avec le Seigneur, on doit attendre de bons fruits. Alors nous avons remarqué une chose, c'est que le diable essaye de mettre des pièges. Pourquoi faire ? Pour essayer de ramener une personne, non pas directement dans son royaume parce qu'il ne veut plus. Sinon, ça voudrait dire qu'il y aurait perte du salut. Et j'ai pas le temps de vous donner, enfin, je vous donnerai quand même quelques petits enseignements là-dessus pendant ces séances sur les rétrogradages. Mais je dois dire que les conditions de la perte réelle du salut, qui devient une impossibilité de revenir après au Seigneur, ce sont des conditions qui sont extrêmement difficiles à réunir. Nous en toucherons quand même quelques mots un peu plus tard. Mais il est clair que comment une personne qui fait une expérience avec Christ, une puissante expérience, péché pardonné, expérience réelle de nouvelle naissance, elle reçoit le Seigneur, sa vie commence à changer. C'est indéniable, elle le sait. Comment une personne comme ça, qui peut-être a été guérie, qui peut-être a été délivrée de puissants démons, qui peut-être a vécu des exaucements de prière, incroyable, qui peut dire vraiment, Dieu existe, je l'ai rencontré, qui a témoigné de sa rencontre personnelle avec le Seigneur. Comment est-ce qu'une personne comme ça, peu après, s'écarter, être hors relation avec Dieu, hors communion avec Dieu, avec le péché qu'elle repratique à nouveau? Comment est-ce qu'une personne peut arriver à être convaincue qu'elle doit s'écarter du Seigneur? Eh bien, il y a un certain nombre de raisons que nous sommes en train d'étudier. Le diable met un plan autour d'une personne pour essayer obligatoirement, et regardez bien dans votre vie spirituelle, vous verrez qu'il y a eu un certain nombre de pièges que le diable vous a tendus pour vous faire retourner en arrière sur votre décision de suivre Christ. Peut-être la famille, peut-être les amis, peut-être parce que vous deviez lâcher un certain nombre de choses. Ça me fait penser à cette histoire de Zachée. Zachée, ce petit bonhomme qui était un douanier corrompu, qui était même chef des douaniers. Et cet homme, Jésus passe dans un endroit et d'un seul coup il s'arrête. Et cet homme, comme il était petit, alors il est monté sur un arbre parce qu'il voulait voir Jésus. Il avait entendu parler de Jésus. Et il est monté sur un arbre. Et Jésus, par une révélation surnaturelle, il dit: Zachée, je dois demeurer aujourd'hui. Parce que Jésus avait reçu une révélation du Saint-Esprit. Et alors Zachée est étonné. Alors Zachée saute en l'air. Il descend de son arbre. Il invite le Seigneur dans sa maison. Et comme Jésus est entré dans sa maison, Zachée est tellement touché par l'amour du Seigneur. Mais Zachée, il avait un problème. Mais Zachée, il avait une fortune. Mais une fortune mal gagnée. Et alors, quand Zachée a été touché par Christ, Zachée dit: Seigneur, moi c'est clair, maintenant ceux à qui j'ai volé, je vais leur rendre au double, triple. Ça, c'était une vraie repentance. Mais ça a eu un prix. Vous savez, marcher avec Dieu, ça a un prix. Ça, je suis désolé de le dire. Je ne refuse de prêcher que la bénédiction. Je prêcherai toujours la consécration. Bénédiction sans consécration, sans sainteté, c'est une catastrophe. Nous sommes des gens qui veulent simplement recevoir et qui font n'importe quoi, qui vivent n'importe comment, qui ne veulent jamais se consacrer à Dieu. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, leur relation avec Dieu est pourrie. Mais rappelez-vous, la raison numéro un pour laquelle Jésus est mort,
c'est pour nos péchés,
pour que nous puissions être justifié, pouvoir nous présenter, avoir accès à sa merveilleuse présence, être en relation avec lui. C'est la raison numéro un pour laquelle Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Alors, nous avons remarqué une chose. La première des façons que l'on voit, c'est des gens qui sont dans le péché, ils sortent du péché, mais ils ne veulent pas se débarrasser, nettoyer leur vie, nettoyer leurs relations, nettoyer certaines choses dans leur vie. Et il y a un temps, vous savez, il y a un temps Il y a un temps où quand tu sors du monde, où tu sors de religion, Dieu va te laisser un temps pour que tu fasses du nettoyage. Un temps où tu dois prendre des résolutions par rapport au péché. Parce que vous avez remarqué comme moi, Christ pardonne notre péché, mais il y a des choses qui sont parties instantanément parce que c'était des choses qui étaient dans notre esprit. C'était des liens spirituels. Et alors que Christ est venu habiter dans nos cœurs, nous sommes instantanément libérés de cela. Par contre, il y avait d'autres péchés qui étaient plus dus à un problème de notre âme, de notre personnalité. Et tu as un temps pour te débarrasser de ce genre de péché. Si tu ne le fais pas, tu risques au bout d'un an, deux ans, trois ans de te retrouver parmi les rétrogrades. Certaines relations, je vous ai dit, dans les relations, il faut faire du nettoyage. Celles qui ne t'entraînent pas à faire de mauvaises choses, qui comprennent réellement que maintenant ta vie a changé, que tu n'iras plus faire n'importe quoi avec ces gens-là, ça tu peux les garder. Certaines personnes se convertiront, d'autres ne se convertiront pas, mais tu peux garder des relations qui ne te mettent pas dans un compromis et qui ne t'amènent pas dans des tentations. Par contre, d'autres relations où il y a constamment des tentations, là tu dois t'en débarrasser. Et fais vite, fais vite. Tant pis, il vaut mieux perdre des gens qui t'amène dans des tentations et qui risque de t'écarter du Seigneur, plutôt que de continuer dans le compromis et risquer de t'écarter du Seigneur. Amen.
Amen.
C'est important.
Donc
il y a des choix à faire. Il y a une consécration à avoir. Et cette consécration, la parole de Dieu nous le demande. Il y a d'autres personnes, vous avez certains problèmes. Problème de péché qui est là, et c'est redondant. C'est-à-dire, il y a des moments où vous tombez dedans, après ça se calme, et après ça revient. Et ça, il y a un temps où il faut s'en débarrasser aussi. Il y a un temps où il faut nettoyer. Si tu ne le fais pas, par exemple le problème de l'alcoolisme, il y a un temps où tu dois couper avec ça, parce que ça t'amènera à t'enivrer encore. Si un jour tu ne vas pas très bien dans ta tête, parce que tu es un peu découragé ou ceci ou cela, et que tu as certaines fréquentations qui t'amènent à, il y a un temps où tu dois t'en débarrasser. D'autres sortes de choses, que ce soit les corruptions, que ce soit n'importe quoi, que ce soit le mensonge, que ce soit toutes sortes de trucs, il faut s'en débarrasser. Si quelqu'un ne fait pas cela, au bout d'un moment, il donne au diable l'opportunité d'avoir une fenêtre, une porte ouverte dans sa vie. Et justement, c'est là où le diable va travailler dans ta vie. Alors, ensuite, il y a ceux donc qui sont tombés dans le péché et n'arrivent pas à se pardonner, parce qu'ils sont complètement découragés. Il y a des gens, parfois ils vivent des choses fortes avec le Seigneur, mais évidemment le diable vous attend au tournant.
Ça, c'est clair.
Vous savez, le diable n'est pas tout puissant, mais Jésus a dit qu'il était malin. Il utilise des méthodes. Jésus a dit que c'était le malin, c'est-à-dire qu'il va essayer de chercher une faille dans notre vie. Et moi, j'ai vu des gens comme ça. Ils commençaient super avec le Seigneur, remplis du Saint-Esprit, touchés par la puissance de Dieu. À chaque fois qu'on priait pour eux, ils étaient littéralement électrifiés sous l'onction. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est pas parce que vous êtes touchés par l'onction de Dieu que votre caractère est formé. Rappelez-vous qu'il y a trois piliers. Je le répète et je le répéterai, parce que c'est très important, la connaissance de la parole, l'onction de Dieu qu'on expérimente, et le caractère qui doit être forgé en nous, ce caractère de consécration envers le Seigneur. Et malheureusement, il y a des gens qui oublient cela, donc ils font de très fortes expériences avec Dieu, mais vraiment des expériences réelles. Mais sachez une chose, si vous faites des expériences réelles avec Dieu, fortes, puissantes, l'ennemi essaiera de trouver un endroit. Si vous ouvrez la porte, il s'infiltrera. Et je connais comme ça quelqu'un, une jeune, 17 ans, elle s'est retrouvée enceinte. Et pourtant, pendant au moins deux ans, elle avait marché avec le Seigneur. Et cette fille-là,
Elle est tellement découragée aujourd'hui qu'on peut lui donner beaucoup d'exhortations. Elle n'ose même plus revenir dans l'église parce qu'elle a honte. Parce qu'aujourd'hui, elle a un bébé. Et quand vous faites ça à 17 ans, vous foutez en l'air votre vie. Et quelqu'un qui marchait vraiment avec le Seigneur, qui aimait le Seigneur, qui a amené des âmes à Christ, vous allez me dire comment est-ce possible. Vous savez, le diable ne vous tente pas là où vous n'avez pas envie. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez remarqué que les tentations viennent là où on a des faiblesses. Dans certains domaines où tu n'as pas de faiblesses, eh bien le diable ne viendra pas te tenter. Regardez ce que dit Jérémie dans les Lamentations. Lamentation de Jérémie. Je vous donne ces versets pour vous encourager. Vous compreniez le processus du rétrogradage. D'abord pour vous éviter si jamais vous êtes dans de tels problèmes. Et en fait, comment dire, c'est pour vous aider à comprendre le processus des gens qui rétrogradent. Pour les aider par rapport à certaines conditions dans lesquelles ils sont. Et aussi donc pour prier efficacement pour eux. Donc j'ai différents objectifs dans cette série d'enseignements. Le premier étant de vous faire comprendre ce que c'est qu'un rétrograde. Le deuxième étant de vous aider à comprendre le pourquoi. Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est à Christ rétrograde? Le troisième objectif que j'ai, ça sera vers la fin justement, c'est de vous aider à prier pour les rétrogrades. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je vous dis, qui commencent avec le Seigneur, mais il y a énormément de gens qui rétrogradent. C'est absolument phénoménal. Toutes les semaines, je reçois des courriers électroniques de gens qui sont dans des problèmes épouvantables, qui ont commencé avec le Seigneur et qui sont dans des situations inextricables, des trucs dans lesquels ils se sont mis, absolument terribles, dans lesquels ils ne s'en sortent pas. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Ils sont découragés, ils se sont fait avoir, et il y a des conséquences. Quand on rétrograde, il y a des conséquences. Être rétrograde, c'est quelque chose qui est terrible. Parce que vous êtes là, jour après jour, et Christ est encore dans votre cœur. Votre conscience a été souillée. Et elle vous parle, cette conscience. Elle vous parle de revenir à lui. Et à chaque fois qu'il y a un moment où vous avez un moment de lucidité dans votre vie, le Saint-Esprit, par votre conscience, vous dit, reviens à moi. Reviens à Jésus. Repends-toi. Sors-toi de cette situation. Libère-toi de ces problèmes. Reviens à moi. Il y a toujours cette voix qui est là et qui veut aider la personne qui a rétrogradé à revenir au Seigneur. Que quelqu'un dise amen.
Amen.
C'est un des rôles du Saint-Esprit qui habite en nous.
Par
notre conscience. Quand quelqu'un est dans un aspect comme ça où il a péché, où il s'en veut. Un prédicateur un jour qui avait beaucoup de résultats dans la délivrance parlait à propos des gens qui étaient dans des institutions mentales. Et il avait donc été dans pas mal d'institutions mentales. Et cet homme a été puissamment utilisé par Dieu. Et il parlait justement des gens qui étaient devenus fous. Certaines personnes. Et il disait étonnamment. Il avait découvert cela. Moi j'étais étonné quand j'ai lu cela. Qu'un certain nombre de gens qui sont devenus fous, ils se reprochent à eux-mêmes certains péchés qu'ils ont faits. Quand vous essayez de parler avec eux, qu'ils ont certaines lucidités, parce que la folie aussi a des spasmes, entre guillemets, hein, la folie a des spasmes. Certaines de ces personnes pensent qu'elles ont commis de tels péchés qu'elles ne pourraient jamais être pardonnées. Et certaines personnes qui sont folles croient en Dieu.
Hein.
Mais croire en Dieu, ça ne suffit pas. Il faut recevoir Jésus. Être libéré des puissances démoniaques. Et la plupart des gens qui sont dans des institutions mentales ont des problèmes démoniaques. Il y en a d'autres, ils ont des problèmes de destruction de cellules dans leur cerveau. Ça, c'est un autre problème. Mais il faut savoir qu'il y a des gens, ils sont rétrogrades parce qu'ils ont péché et n'arrivent pas à se pardonner. Ça, vous en rencontrerez. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 22. C'est que la bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée et que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Qu'est-ce que ce verset veut dire? Ce verset veut clairement dire que chaque jour, Dieu est prêt à pardonner. Dieu est prêt à oublier. La compassion. Dieu est un Dieu de compassion. La compassion de Dieu, c'est quoi? La compassion, c'est de voir quelqu'un qui est dans un état de perdition, qui est dans un état, je dirais, de danger. Mais pas seulement lui dire, ah, mon pauvre vieux, comme je te plains, tu es là, en train de t'enfoncer de plus en plus, jour après jour, dans ces sables mouvants, dans la situation dans laquelle tu es. Ah, vraiment, je n'aimerais pas être à ta place. Ça, c'est pas la compassion, ça, c'est la pitié. La compassion, c'est voir une personne qui est dans ses problèmes, qui est vraiment complètement, je dirais, en train de s'étouffer, de s'éteindre, être en train de faire naufrage, et d'avoir la capacité à l'en sortir. C'est pour ça que Dieu est un Dieu de compassion. Quand il nous a vus dans notre pays, il ne nous a pas dit, ah, tu es sale, un sale pécheur, vraiment à cause de tout ce que tu as fait, tant pis pour toi. Mais il a amené la solution pour pouvoir nous sortir de notre péché et de faire de nous un fils et une fille du roi des rois, de rendre une dignité telle qu'il nous avait créée. Donc il est clair, Dieu a compassion, il est capable de faire sortir quelqu'un d'une situation terrible. Mais il faut que vous sachiez, il y a certains rétrogrades, ce sont des personnes, parce qu'elles ont péché, elles n'arrivent pas à se pardonner. Il faut aider ces gens-là. Troisième raison pour laquelle nous pouvons trouver des gens qui rétrogradent, c'est des gens qui sont mal démarrés. Alors, le démarrage de la vie chrétienne est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que être bien démarré dans le Seigneur, dans nos premiers pas avec Christ, c'est absolument fondamental. Quand quelqu'un reçoit Jésus, c'est une petite plante qui commence à germer, et cette petite plante, comme dans le naturel, elle doit avoir un certain nombre d'éléments qui vont permettre sa croissance. Et c'est là aussi, frères et sœurs, je tiens à le dire, il y a un certain nombre de gens qui sont amenés à Christ et qu'on laisse dans la nature, et c'est pas leur rendre service. D'autres qui sont entourés de mauvaises personnes, soit des manipulateurs, soit des gens qui ont des faux enseignements, soit des gens qui sont tout le temps en train de donner des paroles et des paroles et des paroles, entre guillemets, et qui finalement vous donne des paroles de la chair et vous amène dans des voies sans issue. Regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 3. Corinthiens, je vous rappelle, quand Paul écrit cette épître, cette église avait 2 ans et demi. C'était encore une église qui était assez jeune. Et c'était une église où il y avait beaucoup de problèmes. Et Paul va nous donner quand même un certain nombre de principes à propos de la croissance spirituelle. Parce que naître, c'est une chose. Mais encore faut-il grandir dans de bonnes conditions. Un bébé, si vous ne vous en occupez pas correctement, il peut avoir de sacrés problèmes. Il peut avoir grandi, devenir petit enfant et avoir eu des carences évidentes nutritionnelles, intellectuelles, affectives ou toutes sortes de choses. Et que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde naturel, et je vous rappelle que la Bible donne souvent des parallèles entre le monde naturel et le monde spirituel. Il y a beaucoup d'images dans la parole de Dieu qui sont prises à propos du monde naturel pour nous expliquer le monde. Le monde du royaume de Dieu. Jésus prendra beaucoup de paraboles. Et dans les épîtres, nous avons beaucoup d'explications par rapport à des images naturelles. Alors il dit au chapitre 3, au verset 1, « Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des petits-enfants, littéralement des bébés en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne pouvez toujours même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine. Et quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et l'autre dit « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes ? Qu'est-ce donc Apollos ? Qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru selon ce que le Seigneur l'a donné à chacun. » Verset 6, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. » On peut lire versets 6, 7 et 8, s'il vous plaît.
Suhere kumana wa gatandatu ni je nateye imbuto Apollo arazivomera ariko Imana niyo yazikujije uzitera ntacyamaze cyangwa uzivomera atari Imana ikuza uzitera n'uzivomera ni bamwe ariko umuntu wese azogererwa nkuko yakoze igikwaciwe nkuko Imana ariyo dukorana namwe muri ndimiro z'Imana muri inzu yubakwa n'Imana.
Donc en fait, ici, Paul nous montre une chose. Il y a l'aspect donc d'être planté et l'aspect d'être arrosé. Donc ça, c'est très important. Et il est parlé aussi de croissance. Quelqu'un qui reçoit Christ comme son sauveur personnel doit être planté correctement quelque part. C'est vrai que nous sommes plantés dans le royaume à ce moment-là. Le royaume de Dieu, c'est clair, de par la nouvelle naissance. Mais comme chaque plante dans le naturel doit avoir les éléments de croissance, sinon elle meurt ou sinon elle pousse mal, elle peut pousser tordue comme beaucoup de chrétiens d'ailleurs, elle peut pousser tellement tordue qu'on a l'impression qu'elle est handicapée en fait. Et nous voyons beaucoup de chrétiens comme cela, ils sont amenés à Christ mais directement on ne les amène pas là où il faut pour qu'ils puissent être dans une atmosphère où ils vont grandir. La croissance spirituelle est très importante. C'est quelque chose de fondamental. Parce que recevoir le Seigneur, c'est une chose. Mais après, il va falloir grandir. Et pour grandir, il faut de la bonne nourriture spirituelle. Si quelqu'un se nourrit mal au début de sa vie chrétienne, s'il est amené dans des trucs bizarres, comme on le voit assez souvent malheureusement, s'il n'est pas planté dans une bonne église, où il n'y a pas un très bon enseignement, où il n'y a pas la présence de Dieu, ben je veux dire une chose, cette personne aura du mal à s'épanouir. Parce qu'elle va entendre un truc à droite, elle va entendre un truc à gauche, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, elle va être mal nourrie et elle va avoir des carences spirituelles. C'est pour ça que normalement, quand quelqu'un reçoit le Seigneur, il doit avoir des cours de fondation. C'est ce que nous faisons dans notre église. Tout le temps ici à El Shaddai, quelqu'un qui donne sa vie à Christ, il a des cours de fondation à suivre. Et ces cours de fondation, c'est très clair. On parle d'abord de la nouvelle naissance. Qu'est-ce que c'est que vraiment d'être un chrétien ? Avoir reçu Christ comme sauveur personnel ? Être né de nouveau, okay. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique ? Ensuite, on parle de la parole de Dieu. Comment aborder la parole de Dieu ? Parce que quand on reçoit Christ, bon, on sait que le message par lequel nous avons été sauvés se trouve dans la parole de Dieu. Maintenant, qu'en est-il ? Comment aborder la Bible ? Parce que si on commence à aborder la Bible, malheur à toi, Corazin, malheur à toi, tu seras maudit dans les champs, tu seras maudit. Attendez pas à ton arrivée. Il est vrai que ça peut faire un peu peur. Parce qu'il est vrai qu'il y a pas mal aussi de prophéties que Dieu donne dans sa parole, surtout dans les prophètes, où il y a des malheurs, malheurs, malheurs. Voilà ce qui va t'arriver, voilà ce que je vais te faire, dit Dieu, etc., etc. Et il est vrai que parfois ça peut un peu surprendre. Donc il est évident que quelqu'un qui reçoit le Seigneur doit avoir des enseignements qui sont adaptés à ce qu'il peut recevoir.
C'est
comme un bébé. Si vous présentez une belle brochette à un bébé,
brochette,
eh ben, il va peut-être faire. Mais pas plus. Parce qu'il ne peut pas la digérer, il ne peut pas la manger, il ne peut pas la mâcher. Il n'a pas la capacité. Non pas peut-être que l'odeur ne lui donnera pas envie, mais il est sûr d'une chose, c'est qu'il ne sera pas capable de l'absorber. Donc un bébé spirituel doit avoir une certaine nourriture spirituelle qui doit lui être appropriée. Et en même temps, parallèlement, être nourri c'est bien, mais aussi il faut être arrosé. Il faut être arrosé par la présence de Dieu. On mange et on boit. Donc, être arrosé par la présence de Dieu, c'est quelque chose qu'un nouveau converti doit expérimenter. C'est-à-dire qu'il doit faire ses premières expériences avec le Saint-Esprit. Il doit être rempli du Saint-Esprit. Il doit apprendre aussi à développer sa relation avec Dieu. Petit à petit, il doit apprendre à nettoyer sa vie. Et là, ça fait partie aussi de certains cours de fondation que nous donnons pour que les gens apprennent à se débarrasser du péché. Qu'est-ce que c'est que le péché? Et puis, s'il chute, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Comment restaurer sa relation avec Dieu? Donc, des fondations. Et bien sûr, nous parlons aussi de l'Église. Parce que l'Église, c'est indispensable. Vous savez, il y a eu beaucoup de mouvements d'évangélisation qui ont fonctionné en dehors de l'Église locale. Et d'ailleurs, je vais faire quelques remarques à ce sujet-là. Vous savez, les gens qui ont poussé en dehors des Églises locales, c'est les gens qui ont des problèmes souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est l'autorité spirituelle. Dieu a donné des ministères dans l'église. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Ce n'est pas X ou Y qui l'a inventé. Mais c'est marqué dans la parole de Dieu. Regardons dans Éphésiens 4. Si Dieu a donné des ministères dans l'église, et je ne dis pas des étiquettes, je dis des ministères. Il y en a beaucoup qui se mettent des belles étiquettes de pasteur. Hein, j'ai un jour rencontré quelqu'un qu'on appelait pasteur.
Alors,
je l'ai salué. Je lui
dis
bonjour. Ah, vous êtes pasteur.
Et
je lui dis, où se trouve votre église? Oh,
je
n'ai pas encore d'église. Un pasteur sans église. Non, c'est une étiquette sur une boîte de conserve vide. Il faut être clair. Il faut être très clair. Si quelqu'un a un ministère,
ce
n'est pas l'étiquette qui est importante. C'est voir ce qu'il y a derrière lui. Un pasteur a une église. Un enseignant, c'est quelqu'un qui va d'endroit en endroit et qui enseigne le peuple de Dieu. Il n'enseigne pas qu'un seul type de personne ou une seule église. Il enseigne à droite, à gauche. Et ça se répand. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui prêche avec puissance. Et les gens viennent à Christ, ils sont convaincus du péché. C'est pas un simple exhortateur qui fait des appels et les gens s'approchent. Mais c'est quelqu'un qui a l'onction de Dieu. Et quand il prêche, les gens sont saisis par la conviction du péché. Et il y a des signes, des prodiges et des miracles. Un prophète, ce n'est pas quelqu'un qui est toute la journée en train de dire « Ainsi parle l'Éternel, je vois, demain tu vas rencontrer un tel, après-demain tu vas faire ceci, aujourd'hui tu as fait cela, etc. » Non, un prophète reçoit des révélations, c'est clair, mais ce n'est pas une machine à révélation.
Ce n'est
pas une machine à « donne-moi une parole ».
Ce n'est
pas ça un prophète. Il est soumis à la volonté du Saint-Esprit,
oui,
il reçoit un certain nombre de choses,
des
révélations, c'est clair. Il est utilisé dans ce domaine-là par Dieu. Il reçoit aussi des visions dans certains domaines, mais ce n'est pas une vision garantie à chaque réunion. Ça,
ce
n'est pas scripturaire. Il reçoit souvent des révélations sur des mouvements de Dieu, sur certaines choses où l'Église doit se préparer. Et à ce moment-là, l'Église se prépare, que ce soit pour des réveils, que ce soit pour des moments difficiles, et il enseigne par rapport aux révélations qu'il a reçues. Et un apôtre, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va d'endroit en endroit et qui va planter des églises. Je
ne
dis pas démarrer,
je
dis établir. Il y a beaucoup de gens qui démarrent des choses qui sont des églises, mais en fait ce ne sont pas des églises. Il y a beaucoup de gens qui se disent apôtres
et
ce ne sont pas des apôtres. Un vrai apôtre de
Christ,
comme le dit Paul dans 2 Corinthiens 12, a les signes d'un apôtre. La puissance de Dieu est sur lui. Et il y a des choses qui se produisent extraordinaires. Éphésiens 4:11, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, enseignants, pour le perfectionnement des saints, pour l'équipement des saints si vous voulez, cela en vue de l'œuvre du service, c'est-à-dire l'œuvre du ministère, c'est-à-dire ce que Jésus nous a confié comme mission, aller prêcher l'évangile et faire des nations des disciples, et de l'édification, de la construction du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire adulte. L'homme fait, ça veut dire adulte dans le grec. À la mesure de la stature parfaite, mature, si vous préférez. Tout ce qui est fait et parfait, c'est l'idée de mature, d'adulte, état d'adulte, c'est ça que ça veut dire, du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ou des bébés, littéralement, flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et dans leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, c'est-à-dire Christ. Verset 15, s'il vous plaît. Alors, il est clair ici qu'on nous parle de croissance. La croissance est relatée avec les ministères. Pas de ministère, pas de croissance, pas de croissance numérique de l'église et pas de croissance spirituelle. Parce que la croissance, ça va dans deux sens. Croissance numérique, c'est une chose, mais aussi croissance spirituelle. Vous pouvez avoir des endroits où c'est bondé de gens qui se disent chrétiens, mais qui sont ni plus ni moins des petits bébés ou des gens qui ne sont pas réellement, enfin, qui ne sont pas sauvés, tout simplement. Mais qui sont là parce qu'ils ont une belle musique, parce que l'endroit leur plaît, parce que. La Bible est clair. Pas de ministère en action, en opération, il n'y a pas de croissance. Pas de croissance de l'église. Pas de croissance numérique, pas de croissance spirituelle. Ça veut dire que quand quelqu'un est touché par la grâce de Dieu, il doit être planté dans une église locale. Très important. Très important. J'insiste lourdement là-dessus. Et je dois le dire, je m'oppose complètement à tout ce qui peut être fait en dehors des églises locales. À partir du moment où on veut essayer de remplacer l'église locale, je dois le dire, il y a beaucoup de choses qui sont faites en dehors de l'église locale, souvent par des gens, bien souvent, j'ai pas dit toujours, comprenez-moi bien, mais je veux être clair là-dessus, parce que c'est un message qui doit bien passer, qui est positif et qui doit bien passer. Si on fait de l'évangélisation, c'est pas pour dire, nous on fait de l'évangélisation, on amène les âmes à Jésus, et c'est tout. Ça n'a pas de sens. Les gens qui naissent de nouveau doivent être envoyés dans les églises locales, parce que sinon ils vont pousser hors des églises. Même chose pour les groupes de prière. Je vois beaucoup de groupes de prière qui ne font pas chose. Finalement, ils essaient de remplacer l'église locale. Si vous avez des groupes de prière, et je parlais avec des jeunes qui ont des groupes de prière dans les écoles secondaires, et avec d'autres frères qui ont des groupes de prière à droite, à gauche, donc des gens peut-être plus mûrs, dans les groupes de prière, l'objectif numéro un devrait être de faire quoi? De l'évangélisation. Sinon, ça ne sert à rien. Pourquoi essayer de vouloir faire une sorte de petite église parallèle alors qu'il n'y a pas de ministère pastoral? Et je le dis souvent, par exemple dans les écoles secondaires, si on fait des groupes, c'est une bonne chose. Mais la raison numéro un, c'est d'amener les âmes à Christ, pas d'essayer de jouer une église parallèle avec des jeunes qui finalement vont certainement se convertir, en tout cas certains, et finalement, qu'est-ce qu'on va leur montrer comme exemple? On va les faire pousser en dehors de l'église locale. Non, c'est pas votre objectif. Si vous faites ça, vous ne prospérerez pas. Dieu ne pourra pas toucher votre groupe régulièrement. Votre objectif doit être numéro un d'évangéliser. Ensuite, vous donnez quelques petites bases. Mais vous dites aux gens, nous, on n'est pas une église et on n'est pas du tout là pour remplacer l'église. Si vous faites un groupe où il y a des jeunes, là, vous faites de temps en temps des thèmes qui vont toucher les jeunes. Vous parlez, si vous êtes dans les écoles secondaires, j'en parlais avec un frère et une sœur la dernière fois, je leur disais, faites de l'évangélisation, ok, et aussi ayez des thèmes particuliers. Par exemple, vous parlez sur le comportement d'un vrai chrétien à l'école, l'opposition à la tricherie, quel doit être notre exemple, notre témoignage, parce qu'il est bien de témoigner de Christ, mais si à côté de ça, tu fais des choses qui sont indignes du Seigneur, tu contredis ton témoignage. Je leur disais, parlez de la sexualité, parce que vous pouvez faire des choses à propos des jeunes, et on ne peut pas spécialiser une prédication du dimanche sur ce sujet. Donc vous amenez quelqu'un qui connaît ce thème, vous parlez du sida, vous parlez des problèmes que les jeunes rencontrent, de la musique, etc., etc. Et tout ça, c'est bien, parce que ça va toucher une certaine catégorie. Mais je leur ai dit, soyez clairs, où vont vos gens ? Insistez obligatoirement, si vous faites partie du groupe, vous devez vous investir dans une église locale. Très important ce que je vous dis. Amen. Les gens qui poussent en dehors des églises locales, c'est une catastrophe. Ce sont des proies. Ils pensent faire des choses pour le Seigneur, et c'est vrai que certains commencent à porter des fruits, mais à court terme, oui, mais à long terme, ça ne marchera pas longtemps. Pourquoi ? Parce qu'en dehors des ministères, il ne peut pas y avoir une réelle croissance. Il ne peut pas y avoir de réelle croissance. Il n'y a pas une protection divine. L'église locale est une protection divine. Quand quelqu'un est planté dans une bonne église locale, il est bien nourri, il a tout ce qu'il faut pour boire, et croyez-moi, devient solide. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, cette personne croit, grandit, se fortifie. Et à ce moment-là, les événements qu'elle rencontre dans sa vie, les attaques diaboliques, toutes sortes de choses, elle sait quoi faire. Elle sait comment répondre. Et il y a une protection chez cette personne. L'église locale est une immense protection. Rien ne remplacera l'église locale. Les gens qui veulent pousser en dehors des églises locales sans jamais être soumis à une autorité pastorale, ils font une immense erreur. Ils font une grave erreur qui leur coûtera à long terme. Je tiens à le dire, et on le voit très régulièrement. Donc être bien démarré dans le Seigneur, c'est important. Avoir les conseils d'un pasteur, c'est important. Moi, je vois souvent des gens, quand ils ont des problèmes, ils cherchent toujours une solution. Vous savez, avec le site enseignement.com, c'est moi qui réponds aux emails, je reçois tous les emails. Et je réponds tous les jours à des emails. On en reçoit entre 20 et 30 tous les jours. Et je peux vous dire, il y a souvent des gens qui ont des problèmes et qui pensent qu'on va leur donner la solution. Et je suis toujours obligé de les ramener à leur église locale, à leur dire, écoutez, moi je peux vous donner un conseil très limité, mais je ne suis pas votre pasteur. Vous avez besoin d'un pasteur. Allez voir votre pasteur. Et souvent, je dois le dire, les gens disent ou ils se trouvent une sorte d'excuse, un machin, un truc, en disant, oui, mais vous voyez, etc. S'ils ne sont pas satisfaits dans leur église, qu'ils aillent dans une autre église, mais qu'ils s'impliquent dans l'église locale, qu'ils puissent pousser correctement, parce que dans l'église locale il y a des frères et sœurs qui marchent avec le Seigneur. Et si la Bible nous montre que nous devons être ensemble, nous devons passer du temps ensemble en tant que corps de Christ. D'une part, c'est parce que vous bénéficiez de l'onction du ministère pastoral, et d'autre part, c'est parce que vous connaissez des frères et sœurs en Christ, et que le jour où peut-être tu as un problème, tu viens voir ton frère ou ta sœur et tu lui dis, tu vois, prie pour moi parce que ça va. Prie pour moi parce que vraiment en ce moment j'ai des ennuis. Je passe par des moments qui sont difficiles et j'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin de tes prières. J'ai besoin que tu me soutiennes. J'ai besoin d'un conseil. Parce que franchement, là j'ai des décisions à prendre et je me retrouve dans des moments difficiles. Et c'est tout à fait normal. Donc il y a des gens qui sont mal démarrés. Des gens qu'on amène à Christ, Et en fait, finalement, ils sont tellement mal démarrés. Donc en fait, ces personnes qui sont mal démarrées, elles auront rapidement plus tendance à rétrograder. Donc c'est important d'avoir un bon démarrage dans le Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas un bon démarrage, c'est quelqu'un qui sera amené plus facilement à glisser, à tourner en rond pendant des années, à être découragé, et au bout d'un moment, à se refroidir complètement. On le voit. On le voit. Les gens ont besoin d'être correctement démarrés. Il y a des personnes à qui on enseigne des choses qui ne sont pas scripturaires. On les fait tourner en rond avec des histoires de malédiction. On les fait tourner en rond avec des histoires de délivrance à outrance. On les fait tourner en rond avec des choses qui sont fausses, de l'Ancien Testament. Que Dieu va peut-être répondre, que le ciel est fermé, que les églises des cieux sont fermées. Toutes sortes de trucs bizarroïdes qu'ils ont puisé dans l'Ancien Testament et qu'ils essayent d'appliquer à nous qui avons été parfaitement libérés en Christ. Donc, ce qui fait que ces personnes-là ont du mal à avancer. Elles se découragent. Elles prient et s'épuisent. Parce qu'elles ne voient pas Dieu intervenir. Parce qu'elles ne savent pas comment prier. Parce qu'elles ne savent pas qui elles sont en Jésus-Christ. Parce qu'elles n'ont pas été enseignées correctement. Parce qu'elles ne sont pas renouvelées dans la présence de Dieu. Il y en a d'autres à qui on a fait des choses sur elles. Moi je me souviens, il y avait des chrétiens comme ça avec qui on parlait. Les gens leur fait écrire, vous savez, tous les péchés qu'ils ont fait avant
de se convertir.
Imaginez-vous aller retrouver tous les péchés qu'on a fait
avant de se convertir.
C'est pas possible. C'est impossible.
Vous
imaginez un peu. Et les gens cherchaient dans leur passé. Et Dieu ne te dit pas de chercher dans ton passé. Il te dit de regarder au futur. De regarder ce qu'il a devant toi. Et ces gens-là, ils remplissaient des pages et des pages.
Et alors,
leur pasteur était là. Bon, allez, on va demander pardon pour ce
péché.
Allez, crache ce péché-là. Allez, on va chasser ce démon.
T'as
fait telle chose. Démon de mensonge, au nom de Jésus.
Chasse
ce frère de cette sœur. En général, ça marchait sur les sœurs. Et alors, ils passaient des séances pendant des heures et des heures et des heures. Et on les déliait et on les reliait. Et on les tressait et on les détressait. Mais des trucs. Ça, quand ces gens-là sont démarrés comme ça, ils sont bizarres, ils sont fanatiques. Ou alors d'autres personnes qu'on rencontrait aussi. Ils ne pouvaient pas rentrer dans un lieu sans faire le ménage spirituel. Au nom de Jésus, je chasse un démon qu'il pourrait y avoir sous le tapis. Oui, sous le tapis, j'ai vu quelque chose bouger. Et alors, dans les plafonds, et dans les lumières, et dans les trucs.
Mais
des histoires, pas possible. Mais comment voulez-vous que ces gens grandissent dans le Seigneur? Ça, c'est des gens qui poussent tordus. Ils ont des superstitions. Ils ont peur. Ils ont peur. Et alors ils se retrouvent dans des situations. J'ai reçu un mail la dernière fois de quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui lui avait donné une parole dans une réunion. Qui lui avait dit, vous avez des gris-gris. On vous en a donné dans la maison, etc., etc. Et alors il va falloir enlever ça. Et vous allez avoir un enfant dans un an et demi ou deux ans. C'était des gens qui
n'avaient
pas d'enfants. Et manque de chance. La personne a eu un enfant et le conjoint est mort. Ça, ça n'avait pas été prophétisé. C'était grave. La personne était découragée, elle ne savait plus où elle
allait.
Mais maintenant, il y a un homme de Dieu, il nous a donné la parole. Et il nous a dit que nous aurions ceci, que nous aurions cela. En fait, tout un avenir devant eux. Et le conjoint décède. Quelques mois plus tard. Et la personne était complètement par terre. Je suis complètement déboussolé, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus comment faire.
Vous
voyez, quand il y a des choses qui se passent comme ça, dans la vie d'une personne, vous ne croyez pas que la personne se sent découragée après? Bien évidemment qu'elle se sent découragée de plus en plus. Elle se retrouve avec des échecs dans sa vie. Non. Faisons bien attention, frères et sœurs. Être bien démarré, c'est important. Quand on a des questions, on doit avoir des réponses. Dieu n'est pas un Dieu qui nous laisse avec nos questions. Dieu nous donne des
Dieu n'est pas un Dieu de problème.
C'est
un Dieu de solution. Nous devons trouver des solutions au travers de l'évangile. Pas après pas, après pas, après pas. Mais si nous sommes mal démarrés, nous poussons tordus, nous risquons d'être très découragés et nous sommes amenés dans des voies de garage. Et au bout d'un moment, on commence à se refroidir. On ne sait pas marcher par la foi. On ne comprend pas bien où l'ennemi est, c'est-à-dire sous nos pieds. On se retrouve devant tout un tas de situations qui finalement nous amènent à ce que la température spirituelle de notre vie refroidit, diminue. Et au bout d'un moment, bon, on commence à aller à l'église, on se dit, bon, ouais, c'est bien, mais je ne sais pas, en ce moment, je ne suis plus très béni. Je ne sais pas trop pourquoi. Oh, le pasteur doit avoir un problème. Puis la louange, ça ne va pas en ce moment. Ce sont des signes. Fais attention de ne pas te refroidir. Mais reste bien chaud. Regarde ta relation avec Dieu. Pratique les fondations, la parole de Dieu. Moi, je vois souvent des gens qui m'écrivent, qui me parlent, qui me disent « Ça fait 5 ans que je suis sauvé, ça fait X années, et j'ai encore tel et tel problème. » Souvent, je les renvoie à des cours de fondation. Et je leur dis « Regardez là où vous avez glissé, où vous n'avez pas pratiqué dans certains domaines. » Les gens veulent des trucs super spirituels, alors qu'ils ne maîtrise bien d'abord les bases de la vie chrétienne. Après, tu verras, tu pourras construire. Mais si tes fondations ne sont pas bonnes, sont pas stables, si c'était construit avec des choses qui ne sont pas claires, tu verras que plus tu monteras, tu voudras monter ton édifice, bien plus ça se cassera la figure. Et c'est là où ça fait mal. C'est là où des gens n'ont pas de bonnes fondations. Ils se retrouvent vraiment au bout de quelques années à être complètement froid pour le Seigneur. Dieu nous appelle à marcher de gloire en gloire. De victoire en victoire. Ce que tu as vécu au début de ta vie spirituelle, tu dois en vivre beaucoup plus maintenant. Si tu as amené des âmes au Seigneur, tu dois en amener plus pour quelques années. Si tu as vu des réponses à des prières, tu dois en voir encore beaucoup plus dans les années qui viennent devant toi. C'est toujours plus. Avec Dieu, il y a toujours une croissance. Si dans ta vie spirituelle, c'était comme ça, donc ça descend complètement et complètement tu ne vis plus grand chose, tu as plutôt intérêt à regarder où tu en es avec le Seigneur. Tu as plutôt intérêt à savoir pourquoi tu commences à te refroidir, parce que quand on commence à se refroidir, on devient de plus en plus charnel, on devient de plus en plus tourné vers nous-mêmes. Moi, télé moi, radio moi. Tout est sur moi. Moi, je pense que moi, je veux ceci. Mes décisions, c'est tout autour de moi. Et le Seigneur n'a plus trop de place. Et il devient numéro 2, numéro 3. Et au bout d'un moment, tu commences à t'écarter à des filles. C'est pour ça qu'il faut rester fervent d'esprit. La Bible nous dit de rester fervent d'esprit, de rechercher Dieu, parce que Dieu est trouvable. Dieu est un Dieu qui veut te toucher, non pas seulement une fois pour te mais régulièrement. Et il veut que tu vives de plus en plus des choses intenses avec lui, dans ta relation avec lui. Mais il y a un prix à payer, il y a un sacrifice à faire, il y a du nettoyage à faire, il y a des décisions à prendre, il y a des convictions à suivre. La vie chrétienne n'est pas simplement un bateau dans lequel tu montes et dire voilà, je suis sauvé, mais tu dois participer aussi à faire avancer ce bateau. Faisons bien attention, parce que Dieu veut que nous soyons fervents. Dieu veut une église chaude. Dieu veut des chrétiens qui marchent avec lui et qui désirent sa présence, qui désirent sa parole, qui désirent le voir intervenir. Pour cela, il te faut des bonnes fondations. Il y a tellement de gens qui ont mal démarré, et quand ils démarrent mal, après il faut les recadrer. Je me souviens d'un frère, qui avait été très mal encadré il me disait au bout de 6 mois, alors que j'étais sauvé, que j'avais reçu Christ, mais je faisais n'importe quoi, parce qu'on me disait n'importe quoi. Alors moi, quand on m'avait amené au Seigneur, vous savez, Dieu sauve. Il y a des gens qui sont sauvés des fois dans des circonstances, on se demande pourquoi. Mais Dieu sauve parce qu'il voit la soif de nos cœurs. Et Et l'important, c'est d'apprendre à le suivre, d'être clairement enraciné en lui. Pour être enraciné en lui, il faut des bonnes fondations. Être bien démarré, c'est quelque chose d'important. Et après, tu construis bien. Tu construis haut, parce que tes fondations sont solides. Et quand tes fondations sont solides, alors tu iras haut. Tu peux construire haut. Bonne fondation, grand édifice. Petite fondation, petit édifice, petite maison. Qu'est-ce que tu veux construire? Donc c'est important, frère. Être bien démarré. Quand une personne est bien démarrée, ça l'aide à rester sur la piste. Quand une personne est mal démarrée, il faut la ramener. Et des fois, elle a mis des années, elle a erré pendant des années. Et certains ont rétrogradé en disant non, moi j'ai vu ça parmi les gens qui sont sauvés. Je préfère les mauvais exemples devant les yeux, et les conflits parfois ouverts, des choses difficiles que les gens vivent, des fausses paroles, des faux enseignements, toutes sortes de choses. Là où on n'a pas mis le respect de l'autorité spirituelle. Il y a des gens qui sont comme ça. Vous savez, si quelqu'un vous amène à Christ et qu'il est déjà rebelle à toute autorité spirituelle, comme je le dis souvent, les chats ne font pas des chiens. Hein. Quelqu'un qui est chaud dans le Seigneur, quand il amène quelqu'un au Seigneur, il dit, oh, tu sais, voilà ce que c'est que la vie chrétienne. Le Seigneur est bon, le Seigneur est vivant, le Seigneur agit dans sa vie, dans tel homme. Il lui montre une image du Seigneur qui est bonne. Mais quelqu'un qui est déjà dans le compromis, il montre une image à la personne qui est mauvaise. Et cette personne prend exemple. Vous savez, quand on vient de se convertir, nous avons besoin de modèles. Et si on a un bon modèle, parce qu'on a des bons chrétiens autour de nous, parce qu'on est dans une bonne église, alors tout de suite on adopte une bonne mentalité. Je le dis souvent, il est plus facile d'apprendre bien la bonne chose la première fois que d'être obligé de désapprendre des choses qu'on a apprises et qui ne sont pas bonnes. Vous savez, c'est comme quand on veut jouer d'un instrument de musique. Si vous apprenez par vous-même certains instruments de musique, vous avez certains réflexes. Je ne parlerai pas de la conduite des gens qui achètent leur permis de conduire. Si vous avez un permis de conduire, mais en fait, on s'aperçoit d'une chose. Par exemple, si on n'apprend pas bien à conduire, eh bien, on acquiert des mauvais réflexes. Et le jour où tu dois vraiment prendre des leçons, que tu as des règles strictes, il y a des choses que tu as l'habitude de faire, parce que ça te paraît normal, que tu ne dois plus faire. Je ne prendrai pas d'exemple ici au Burundi. Bien des exemples sur la route. C'est la même chose pour un instrument de musique. Tu apprends d'une certaine façon. Si quelques années après, tu prends des cours, ton prof va dire non. Tu ne dois pas placer tes mains comme ça sur le piano. Tu dois faire ça. Tu dois jouer de cette façon. Mais à chaque fois, tu fais l'exercice et... Tu acquis ce réflexe. Donc, tu es obligé de te corriger et c'est difficile. Alors que si au début tu avais pris des cours, la personne t'avait montré de la façon correcte, bien placer tes mains, automatiquement tu te serais habitué déjà à bien apprendre. Et ça, c'est le problème de certains chrétiens. Ils ont mal été démarrés. Ils ont mal appris dans leur vie spirituelle. Un certain nombre de choses qu'ils auraient dû apprendre, qu'on ne leur a pas transmises. Et ça les a amenés dans bien des problèmes. Nous allons prier.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.